Alors, comment la Chine est arrivée dans votre vie?
Par hasard. Il y avait une option chinoise dans mon lycée quand j'avais 15 ans, enfin à l'entrée en seconde, et j'en avais marre de faire du latin. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose parce que j'étais bonne élève, je prenais toujours des options, etc. Et j'ai vu chinois, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est pas comme les autres. À l'époque, il y avait quand même peu de lycées qui proposaient le chinois. Et voilà, ça m'a assez fascinée. Je me suis dit, bientôt, je pourrais lire les devantures des restaurants chinois. Personne n'y comprend rien, donc je vais apprendre le chinois.
Alors, vous avez donc commencé par un voyage dans les idéogrammes, et ce voyage, vous le poursuivez actuellement?
Oui, parce que je poursuis mes études de chinois depuis, enfin, qui ont été interrompues pendant 2 ans, où j'ai été en classe préparatoire. J'ai vraiment pas eu de temps à consacrer au chinois. Et je l'ai repris, en fait, après, pratiquement à zéro, mais j'ai repris, et depuis, j'ai plus jamais arrêté. Et là, ça fait 3-4 ans que je m'investis quand même de manière assez intensive dans cette langue. Et plus j'avance d'ailleurs, plus j'ai l'impression d'être face à un gouffre et que je pourrais y passer finalement toute ma vie, quoi.
Est-ce que votre passion pour les chevaux date de la même époque que celle du chinois?
Non, elle est bien antérieure parce que j'ai commencé à monter à cheval, enfin un poney comme tous les gamins à 5-6 ans. Et après, enfin, comme tous les gamins qui ont la chance de commencer à monter à poney. Et après, en fait, on habitait avec mes parents dans un petit village dans la campagne. On a eu l'occasion de déménager près d'une ferme où on nous a prêté un terrain, de récupérer tout d'abord un mulet. Ça commençait comme ça. Donc j'avais eu une mule, enfin un cheval au début. À 10 ans, j'ai eu une grande mule blanche. Et après, on a eu d'autres chevaux, un cheval de trait, des ânes. Et dans ma famille, chez moi, enfin, c'était une joyeuse pagaille avec plein d'animaux. Et donc, j'ai vraiment grandi avec les chevaux jusqu'à l'âge de 17 ans où je suis partie pour Paris. Mais après, j'ai continué à essayer de les fréquenter au maximum. Donc, c'est vraiment une passion depuis très très longtemps.
C'est pas pratique d'aller à Sciences Po à cheval. Alors, pourquoi vous êtes allé d'abord au Kirghizistan avant d'aller en Chine?
À vrai dire, jusqu'à assez récemment, donc j'apprenais la langue chinoise, mais je m'étais pas, enfin toute la période du lycée, je m'étais pas passionnée pour le pays. J'avais pas un grand grand intérêt pour la Chine, ou en tout cas, j'y connaissais pas grand-chose, et je suis pas tellement allée fouiller de ce côté-là. Et il s'avère que par hasard, j'ai découvert l'existence du Kirghizistan, qui est un tout petit pays de haute montagne, et un des seuls pays au monde où l'activité agricole principale est l'élevage du cheval, hein, un peu au même titre qu'en Mongolie, sauf qu'on n'est pas dans la steppe, on est dans la haute montagne. Et ce pays m'a totalement fascinée, notamment parce que j'en avais jamais vu aucune image avant de tomber sur un livre, aucune image ni des Kirghizes, de leurs chapeaux, de leurs yourtes, etc. Et j'ai décidé d'y aller, j'ai tout fait pour obtenir une bourse de voyage et je suis partie à 19 ans là-bas pour traverser le pays à cheval avec un berger. Donc voilà, ça a été un peu encore un autre hasard de la vie. Et une fois au Kirghizistan, je me suis rendu compte un jour que j'étais à peine à 100 km de la frontière chinoise et je me suis dit, mais c'est fou, l'ouest de la Chine, c'est encore l'Asie centrale, il faut que j'aille voir par là.
C'est comme ça qu'après vous êtes parti en Chine. Mais vous êtes parti chercher quoi finalement? Parce que le Kirghizistan, bon, on se dit l'amour du cheval, etc. Mais alors là, passer la frontière chinoise, pourquoi?
C'était beaucoup, oui, c'était assez flou dans ma tête ce que je suis partie chercher. Je suis partie chercher déjà un certain type d'espace parce que en Chine, ce que j'ai côtoyé, c'est principalement des régions de désert, de hauts plateaux, peut-être les plus arides et les plus difficiles, parmi les plus difficiles d'Asie. Donc j'avais une certaine fascination pour ces espaces-là que j'avais un peu touché en Asie centrale. Je voulais aussi essayer de comprendre la Chine, peut-être en l'attaquant par ses marges, parce que finalement, moi, tout ce que je lisais dans la presse, dans les médias et les bouquins sur la Chine, ça m'intéressait pas tant que ça, parce que ce dont on parlait, c'était un cinquième du territoire chinois, la côte est, la Chine développée, etc. Alors que moi, j'étais fascinée par une chose, c'est comment un pays qui abrite des religions, des cultures et des espaces géographiques si différents a pu parvenir à imposer au monde extérieur l'image de son unité. Voilà, la Chine, cette espèce d'énorme bloc. Alors qu'en fait, quand on est dans l'Ouest, on est chez des musulmans, les Ouïghours, bon, même s'il y a beaucoup de Chinois maintenant, tout le plateau tibétain, c'est un immense territoire qui est encore différent, le Sud qui est peuplé de minorités. Donc je me suis dit, c'est aussi un moyen intéressant de comprendre un peu ce pays dans ses contradictions que d'aller voir par les marges. Donc c'était ça. Et puis après, l'idée d'une grande marche en solitaire, dans un territoire où on va quasiment de la Sibérie au tropique sans passer les frontières. Donc ça me fascinait aussi.
Alors, il y a peut-être aussi le nomadisme qui vous fascine, parce que pour partir si longtemps à pied, à cheval et seul, c'est une vie de nomade.
Oui, c'est une vie nomade. Moi, après, c'est un peu une vie nomade fictive aussi, parce que au Kyrgyzstan, ce que j'étais allée étudier, justement, c'était bon, la vie des éleveurs semi-nomades dans les pâturages d'été. J'ai bien pu constater que de nomades, il ne reste pas grand-chose. Il y a un ou deux déplacements par an maximum, et qui s'effectuent principalement avec des camions. Puis je pense que de toute façon, même le nomadisme tel qu'il se pratiquait, on ne se déplaçait pas tous les jours. Donc en me déplaçant tous les jours, je recrée une autre forme de nomadisme qui correspond quand même à certains aspects du mode de vie des gens. Le fait de ne pas vivre sous quelque chose en dur, de ne pas avoir de bâtiment où rentrer le soir, le fait voilà, de se déplacer. Mais là, c'est un peu la démarche poussée à l'extrême. Mais c'est vrai que cette idée-là me fascine, surtout bah, dans une société où la maison, le bâti, le foyer est quelque chose finalement de central. Et même pour moi, je m'en suis rendu compte. Comment se détacher de tout ça, c'était aussi une question.
Être nomade, c'est aussi rencontrer des gens différents tous les jours.
Oui, c'est ce que je vous disais au début, c'est être capable. Eh bien, en Chine, de discuter sur le plateau tibétain avec un ouvrier chinois qui a été envoyé là sur un bâtiment de construction pour réparer la route, avec le policier local, en essayant bah, de comprendre son point de vue et de faire face à ses demandes, avec un berger, avec un militant. C'est essayer de pas de comprendre tout le monde, on peut pas, mais en tout cas d'écouter tout le monde et de se mettre au niveau des gens. Et puis, c'est ce que j'essaye de faire aussi en conciliant différents pans de mon existence après au retour en France. Considérer qu'il n'y a pas un milieu privilégié et voilà, essayer de s'adresser à tout le monde avec la même ouverture, ce qui est, cela dit, très difficile.
Comment vous avez été accueilli là-bas?
Ça dépend, bien et mal. Je crois que la Chine, ça reste pas un pays où on est très bien accueilli. Du fait de raisons politiques, du fait des traditions de dénonciation, de la suspicion générale qui règne et qui rend quand même difficile les échanges quand on est dans des régions où il y a des minorités, où il y a une forte surveillance. Donc ça rend plus complexe le contact avec les gens. Et donc ça a été beaucoup difficile. Il y a eu aussi des rencontres absolument extraordinaires, notamment chez les Ouïghours, qui sont les musulmans du nord-ouest de la Chine, où là, j'ai quand même bénéficié d'un accueil assez extraordinaire, malgré quelque part le danger qu'ils pouvaient encourir à m'accueillir. Chez les Tibétains, ça a été plus difficile. C'est des gens assez austères et assez difficiles d'abord, même si il y a eu encore une fois des rencontres extraordinaire. Donc c'est ça c'est de ça cela de ça demeurait assez difficile quand même sur certains pans du voyage, voilà.
Alors, une jeune fille toute seule avec un cheval ou deux chevaux, je ne sais plus, ça passe pas inaperçu quand on arrive. Vous parlez des dangers, quels sont un petit peu, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté particulière?
Alors, difficulté, bon, il y a la surveillance policière, mais je ne suis pas considérée comme un danger parce qu'à ma connaissance et jusque récemment en Chine, ce qu'on risque principalement, c'est de se faire arrêter et reconduire à la frontière. C'est certes ennuyant, mais a priori, on risque pas de se retrouver au fin fond d'une prison à se faire torturer. Enfin bon, c'était pas mon inquiétude en tout cas. Après, bon, il y a le climat, il y a les bêtes, il y a les chiens au Tibet, bon, des choses comme ça, mais c'était pas non plus mes sources d'inquiétude principales. Bon, ça reste les humains, le danger principal, et ça, évidemment. Moi, j'étais attaquée sur le bord d'une route, menacée avec un couteau, il m'est rien arrivé, mais j'ai eu l'occasion d'avoir très peur, et je crois que ça m'a marquée. Ça a peut-être été salutaire par la suite, parce que je pense que j'avais un radar un peu allumé, et que j'étais en permanence sur le qui-vive, ce qui est une situation inconfortable, mais complètement nécessaire dans le dénuement dans lequel j'étais. Ça m'a probablement évité des ennuis. Je pense qu'on peut éviter. Après, il y a les accidents, mais on peut éviter beaucoup d'ennuis en étant vraiment sur le qui-vive.
Alors, vous avez aussi emmené votre violon, c'est pas banal, ça.
Alors, j'avais pas emmené mon violon parce que celui-là, j'y tiens trop, mais j'en avais racheté un dans un bazar chinois qui sonnait très faux d'ailleurs. Et l'objectif pour moi, c'était de. Je partais du principe que le cheval, comme le violon, étaient aussi des médias, des moyens d'aller à la rencontre des gens, parce que c'est pas forcément facile d'arriver, de lui dire bonjour, tu veux me rencontrer. Bon. Les gens sont un peu tétanisés, etc. Et d'arriver avec un cheval, bon, ça crée le contact. De toute façon, on a besoin de chercher du grain, etc. Et d'arriver avec un violon, ça crée le contact. Ça a été très efficace chez les Ouïghours, qui sont très musiciens, qui l'essayaient dans tous les sens, qui s'amusent avec. Et puis après, bon, je me suis fait voler ce violon, donc j'ai pas poursuivi le voyage avec. Et de toute façon, je pense que ça aurait été difficile vu les conditions climatiques de le sortir au Tibet. Mais sur la première partie du voyage, c'était un instrument intéressant et je pense que c'était vraiment une bonne idée.
Est-ce que vous étiez préparé physiquement ?
Je m'étais préparée physiquement, oui, mais de toute façon, moi, j'ai toujours fait énormément de courses à pied et de marches, donc. Je suis quelqu'un qui suis endurant et je connais mes capacités physiques. Après, c'est vrai que les mois qui précédaient le voyage, j'ai couru pour être en condition, mais j'ai pas non plus fait de préparation physique pour l'altitude, etc. Parce que je pariais que l'adaptation du corps allait se faire avec le temps, que je savais que j'allais m'adapter moi-même à mes propres limites. Donc voilà.
L'adaptation s'est faite. On retrace votre itinéraire.
Alors, je suis arrivée en février, en plein hiver à Beijing, à Pékin. J'ai rejoint de Pékin une ville du nord-centre de la Chine qui est Xi'an, qui est connue pour son armée de soldats de terre enterrés. Là. Et j'y ai passé quelques semaines dans le but d'obtenir un visa d'étudiante pour passer les contrôles policiers, etc., dans l'ouest de la Chine. Et de là, arrivé le mois de mars, j'ai rejoint l'extrémité nord-ouest de la Chine, donc aux confins de la Mongolie, du Kazakhstan, la ville d'Urumqi, qui est une énorme ville poussée un peu au milieu de nulle part, aux confins donc mongols et kazakhs de la Chine. J'ai, avec un premier cheval, suivi la route nord de la soie, donc je me suis dirigée en direction de l'est, le long du désert d'Aklamakan, une portion de terrain, je ne saurais pas dire le nombre de kilomètres, mais ça m'a pris 6 semaines. À la suite de ça, je me suis donc fait attaquer, j'ai eu de grosses difficultés avec le cheval. J'ai donc abandonné mon idée principale qui était de rejoindre le Tibet directement de cette portion de terrain. Et faute d'eau et de village, j'ai rejoint en train l'extrémité nord-est du plateau tibétain. Et je suis ensuite redescendue tout au long du printemps et de l'été, pendant 3-4 mois, du nord-est du plateau tibétain, à ses contreforts sud-est, dans le Yunnan.
Quelles étaient les étapes les plus marquantes, celles que vous n'oublierez jamais ?
Probablement... La fin, pas toute fin, mais quand on s'approchait de la fin du voyage au Tibet, où j'étais dans un état de fatigue physique assez avancé, puis... et en même temps où tout devenait de plus en plus simple au fil des jours, parce que l'été arrivait, parce que les chevaux avaient pris l'habitude de travailler avec moi, et où j'étais partagée entre ce sentiment de vouloir revenir, parce que de toute façon j'avais un visa qui était vraiment que je ne pouvais pas allonger, donc je n'avais pas pu prévoir un voyage plus long. Donc entre le désir de rentrer à la maison parce que je savais que le retour s'approchait, etc. Et entre en fait l'envie de repartir pour 3, 4, 5 mois parce que ça, je commençais à être rodée et que c'est au moment où je commençais à être rodée que finalement il a fallu partir.
C'est toujours comme ça. À quoi ressemble une journée de Clara Arnaud dans cette traversée chinoise ?
Souvent des levées le matin, tôt, dans la tente parce qu'il n'y avait pas forcément de village, enfin ou tout. Ou tous les 3-4 jours seulement, lever avec le soleil, sortir de la tente. Généralement, tout est gelé dehors au Tibet parce qu'il fait froid au printemps. Là, il faut démonter le bivouac, ranger le matériel dans les caisses, etc., les caisses de bas que les chevaux portaient, aller récupérer les chevaux, les nourrir, qui broutent un peu plus loin, sceller les chevaux, battre les 2 chevaux, donc... J'étais rodée à la fin, je faisais ça très vite, mais ça fait quand même beaucoup de logistique. Mettre les caisses sur le dos de mon petit cheval gris et Éole, et puis partir. Et là, on part pour des journées parfois de 10 heures quasiment sans interruption, parce qu'il y a du vent, que s'arrêter n'est pas confortable, qu'il n'y a pas de lieu où s'abriter. Et, Et en espérant le soir arriver à un village où, en se préparant, bah, reposer la tente dans un coin tranquille.
Eh bien, alors quel budget faut-il pour boucler un voyage de ce genre?
Sur ce voyage-là, je m'étais dit que je partirais, quoi qu'il arrive, avec un budget de 5000 euros. Sachant que j'avais pas cherché à faire un budget minimal puisque j'avais du temps et que je voulais notamment que le matériel équestre soit fabriqué en France par des artisans, que je voulais que le matériel de montagne que j'ai acheté, acheté des marques dont je respectais le modèle économique, etc. Donc j'avais des exigences en termes de matériel, en termes... À plein d'égards, je voulais pas chercher à faire à tout prix le moins cher possible, ni en Chine, parce que quelque part, ce que j'achetais aux gens, c'était aussi un moyen, voilà, de les aider. Donc, je m'étais pas fixé une limite très très basse, et puis je voyageais avec des chevaux, donc j'étais dans une logistique assez lourde. Et après, ça pouvait aller jusqu'à 10 000 euros en comptant très large, en prenant en compte les imprévus, c'est-à-dire attaque, vol, perte, et il y en a eu beaucoup. Et donc, au final, je suis partie avec à peu près un budget de 7 500 euros, me semble-t-il, qui a été à peu près ce que j'ai dépensé. Voilà, mais en prenant en compte le fait que j'allais acheter des chevaux et pas chercher à les revendre, par exemple, les donner, que j'allais avoir ce matériel français. Donc, tout ça faisait partie d'une réflexion où je cherchais pas à minimiser les coûts. Et je cherchais à trouver des financements et au final, j'ai aussi travaillé moi-même, de mes mains. Et au final, j'ai réussi à rassembler cette somme.
Sans la bourse de la Guilde européenne du Raid, vous n'auriez peut-être pas pu faire ce voyage ?
Je ne suis pas sûre que ce soit une question de moyens. C'est vrai que j'ai eu une bourse conséquente, j'ai eu plus de 2000 euros de la Guilde. Mais je crois surtout qu'au moment où j'ai reçu cette bourse et où le projet était quand même encore vraiment en jachère, ça m'a donné une immense confiance parce que c'est une institution qui est connue et reconnue, qui a fait voyager des gens qui sont aujourd'hui très reconnus dans tous les domaines qui touchent à l'expédition, que ce soit polaire, en mer, sur terre, etc. Des gens que je respecte beaucoup et le fait d'avoir leur aval, c'était vraiment quand même pour moi... quelque part, ça me confortait dans l'idée que voilà, ce projet était valable et surtout qu'il était viable puisqu'il m'avait fait confiance. Et je crois que c'est ça qui a été le plus important là-dedans.